Et bien sûr, avec Daniel Habert, on va parler des 10 jours que dure déjà l'opération militaire depuis les frappes américano-israéliennes sur l'Iran. On va prendre du recul dans nos conversations cette semaine avec Blaise van der Linden, bien sûr, qui bavarde avec Daniel Habert, notre géopolitologue maison.
Daniel Habert, bonjour.
Bonjour Blaise et bonjour chers amis.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka pour nos traditionnelles conversations du lundi matin. Alors Daniel, cela fait 10 jours maintenant que les frappes américano-israéliennes sur l'Iran ont commencé. On a un flux d'infos assez conséquent depuis ces 10 premiers jours. Ce que je vais vous proposer Daniel, c'est que dans les conversations et ce dont on a l'habitude de faire, c'est de prendre du recul dans ces conversations. Donc, quelle est votre vision de cette période, de ces 10 premiers jours?
Écoutez, ce qu'on voit, c'est que non seulement sur l'Iran, mais sur le Liban, les opérations militaires sont extrêmement efficaces. Mais c'est vrai que les informations sont tellement détaillées et approfondies qu'on n'a pas cette vision globale que vous me demandez. Et je voudrais en faire deux. Une sur rappeler l'enjeu de ce que j'appelle la deuxième guerre d'Iran en fait, hein. La première s'était terminée en février de cette année, et puis deuxièmement peut-être aussi essayer de comprendre les commentaires qui sont faits par les hommes politiques, par les journalistes, par les experts sur ces 10 premiers jours.
Oui, alors justement, commençons par ces enjeux dont vous parlez. Pour vous, ils ne sont pas clairs?
Écoutez, oui et non, on a un enjeu. L'enjeu, c'est, disons-le clairement, le changement de régime. Mais les objectifs, eux, tels qu'ils sont annoncés et exécutés, sont la destruction des capacités militaires, logistiques, industrielles de l'Iran, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors, je vais essayer de clarifier. L'enjeu, c'est évidemment le changement de régime. C'est le seul enjeu qui compte. C'est l'enjeu pour Israël, bien sûr. C'est l'enjeu pour tout l'Occident, mais c'est aussi l'enjeu pour tous ceux qui, dans le monde, savent que le monde se portera mieux sans cette république islamique, qui est un des moteurs de ce qu'on pourrait appeler le totalitarisme du XXIe siècle, celui qui s'est substitué aux deux grands totalitarismes du XXe siècle, le nazisme et le bolchevisme, qui ont disparu mais qui ont été vaincus après une guerre totale qui a duré plus de 3 ans, qui a vu des destructions absolument immenses, l'emploi de bombes atomiques, et qui a évidemment été payé d'un prix épouvantable, notamment par le peuple juif. Et donc, si on comprend pas que la guerre contre l'Iran, ça fait partie de cette indispensable disparition de ce moteur du totalitarisme, on comprend rien. Et donc, c'est vrai qu'en parallèle à cet enjeu, les Américains et les Israéliens mènent des opérations qui sont plus concrètes. Elles ne parlent pas de changement de régime, elles visent à détruire systématiquement, avec une programmation absolument incroyable, la menace concrète de l'Iran. Donc cet objectif précis, il est en train d'être réalisé. Il n'y a pas de doute que au bout de 2, 3, 4 semaines, l'ensemble des capacités nucléaires, balistiques et industrielles, parce qu'il faut aussi toucher la capacité de reproduire les capacités nucléaires et balistiques, donc il faut toucher l'industrie qui fabrique tout ça. Tout ça demande un petit peu de temps. Mais alors, pour conclure cette vision, il faut remarquer que aussi bien l'enjeu politique, changement de régime, que cet enjeu militaire sont liés. Et donc, on l'a bien vu, puisque dans la première demi-heure de la guerre contre l'Iran, on a commencé par décapiter le régime, le guide suprême et les plus hauts commandants des gardiens de la révolution. Et il faut quand même dire que cette élimination spectaculaire, c'est extraordinaire exploit qui dépasse celui de l'élimination de Nasrallah, que cette explosion des 1500 beepers qui ont détruit le Hezbollah. Là, on est encore au-delà. Ça avait été prévu. Moi, je me souviens qu'on avait annoncé une immense surprise. La voilà, elle a été devant nous. Mais il faut dire aussi que le régime tient quand même, parce que ça fait un demi-siècle qu'il est incrusté dans tous les rouages et qu'ils avaient prévu évidemment cette décapitation en décentralisant les décisions. Et on voit bien que les commandants dans les différentes régions ont à leur disposition un certain nombre de missiles et de drones pour créer un chaos. Des destructions tout autour d'eux, dans une entreprise qui est évidemment suicidaire, désespérée, mais qui vise à retarder la défaite et empêcher cette reddition sans condition que Trump avait annoncée sur le modèle de ce que Roosevelt avait annoncé dès 1943 dans sa lutte dans les deux totalitarismes. Alors voilà. Et pour conclure, non, mais juste un mot pour conclure sur les enjeux. La victoire militaire, elle est assurée. Par contre, la chute du régime, elle va encore dépendre d'événements intérieurs et extérieurs qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. Il y aura des surprises, il y aura peut-être des déceptions. Donc, on est encore dans une phase d'attente.
Passons maintenant aux commentaires des commentaires, si j'ose dire, Daniel.
Écoutez, la tonalité générale, je ne vais pas faire des commentaires précis, mais la tonalité générale de tout ce qu'on entend est à la fois claire et, je dirais, déprimante. Elle est claire parce que tous ceux qui s'expriment disent bien que cette guerre était non seulement indispensable, mais inévitable, et tous savent que le monde sera bien meilleur avec la disparition du régime. Et tout le monde espère, plus ou moins officiellement ou secrètement, que les Américains et les Israéliens feront le travail pour tout le monde. Mais ce qui est triste et désespérant, c'est que tous s'empressent, notamment les Européens, de se distancier de ce conflit en disant c'est l'affaire des Américains et des Israéliens, c'est eux qui sont en première ligne. Nous, on est derrière et on est spectateurs. Ça rappelle un petit peu la réaction de Biden lorsque Poutine avait envahi l'Ukraine. La première remarque de Biden, c'était « Nous ne sommes pas belligérants ». Là, on retrouve cette espèce de volonté d'un certain nombre d'Occidentaux de croire que l'Iran n'en veut qu'aux Américains et aux Israéliens, alors qu'ils en veulent non seulement aux Occidentaux, mais à tous ceux qui ne sont pas musulmans. Donc, on a affaire à une extraordinaire hypocrisie des commentaires qui disent en gros on se réjouit de ce qui se passe, mais on le dénonce en même temps au nom de ce qu'on appelle le droit international, ce qui est à la fois non seulement hypocrite, mais mensonger, parce que les meilleurs juristes du monde peuvent facilement prouver que juridiquement, cette attaque israélo-américaine est justifiée parce que l'Iran a été en déclaration de guerre, etc. Et voilà cette hypocrisie, si vous me posez la question de ce qu'elle révèle, elle révèle trois choses. Si j'ai encore le temps pour m'exprimer, la première, c'est que on est dans une sorte de démission munichoise, c'est-à-dire qu'on retrouve dans les arguments qu'on entend tout ce qui a conduit les Anglais et les Français à aller signer le traité de Munich en 1930. On revoit tout ça, nous revivons en direct Munich. La deuxième chose, c'est qu'on voit notamment chez les Européens une démonstration d'un anti-américanisme primordial. L'année dernière, Vance avait un peu fustigé les Européens et on a l'impression que les Européens se vengent des Américains en disant vous les aviez critiqués, maintenant c'est à nous de vous tancer à nouveau. Et puis surtout, et c'est ça qui est évidemment le plus attristant, le plus déprimant, on revoit arriver ce fond d'antisémitisme européen millénaire qui a conduit à la persécution des Juifs pendant 2000 ans et à la Shoah, et qu'on retrouve alors sous la forme anti-sioniste aujourd'hui, et avec une question qu'on sent dans tous les commentaires, comment des Juifs peuvent-ils être aussi courageux, faire preuve d'autant d'intelligence, de combativité, d'héroïsme, alors que nous, les Européens, sommes devenus un peuple au fond peureux, geignard, égoïste, défaitiste et prêt à se soumettre. Et je crois que c'est ce fossé terrifiant entre ce que sont devenus les Européens et ce que sont restés les Israéliens et les Américains, heureusement, qui fait qu'il y a une véritable haine d'Israël qui se manifeste derrière tous ces commentaires.
Malheureusement, Daniel, on n'aura pas le temps de conclure, mais on aura le temps évidemment dans nos prochaines conversations de revenir là-dessus. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous ce matin, et puis on se retrouve lundi prochain, comme tous les lundis.
Voilà, mais c'était une conclusion. En tout cas, à la semaine prochaine.